Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité, vers un cessez-le-feu partiel entre la Russie et l'Ukraine, c'est peut-être ce qu'il va ressortir aujourd'hui d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les deux hommes se rencontrent en Arabie Saoudite. Plus d'électricité, plus de carburant et bientôt peut-être plus d'eau courante, la situation est critique dans la bande de Gaza. Ce 11 mars marque le 5e anniversaire de l'épidémie de Covid-19. Et enfin, nous allons découvrir la nouvelle playlist personnelle et surprenante du roi Charles III. Et on commence ce journal avec l'actualité du monde et les pourparlers attendus aujourd'hui en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis. Si ce n'est pas la première fois que Riyad joue les médiateurs dans la guerre depuis 3 ans, eh bien c'est la première fois que Washington et Kiev se reparlent depuis la rencontre tumultueuse il y a 10 jours entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. A priori, le président ukrainien compte bien proposer une trêve dans les airs et en mer pour convaincre Washington de maintenir son aide militaire malgré une série de bombardements mortels ces derniers jours. Volodymyr Zelensky a encore répété via le réseau social Telegram que l'Ukraine recherchait la paix depuis la première seconde de la guerre et d'après Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, les États-Unis seraient intéressés par cette possible proposition d'un cessez-le-feu partiel. Donald Trump lui-même, qui ne se rend pas en Arabie Saoudite, on le précise, souhaite voir des résultats à la suite de ce rendez-vous.
These are big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia, which is going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. Might you get something done? A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe, this week.
Le point sur l'actualité au Proche-Orient à présent, fin de l'opération militaire en Syrie contre les fidèles de Bachar al-Assad. Les affrontements ont fait plus de 1500 morts ces derniers jours, les deux tiers étant des civils majoritairement issus de la minorité alaouite, la minorité de Bachar al-Assad. Amnesty International appelle Damas à autoriser une enquête internationale sur ces violences. Syrie toujours, et le nouveau pouvoir de Damas annonce un accord avec les forces kurdes pour intégrer toutes les institutions civiles et militaires de la minorité au sein de l'État syrien. Cette entente garantit l'ensemble des droits constitutionnels à la communauté kurde. En contrepartie, les régions contrôlées par les Kurdes dans le nord-est du pays reviennent sous l'autorité de Damas. Depuis le début de la guerre en 2011, on rappelle que le Kurdistan syrien se gérait de manière autonome. L'armée israélienne a, elle, de son côté, effectué une frappe aérienne contre 3 combattants qui, selon elle, enfouissaient un engin explosif dans le centre de la bande de Gaza, alors qu'une trêve, certes fragile entre Israël et Hamas, mais tout de même est en vigueur depuis bientôt 2 mois. En parallèle, Israël a stoppé la distribution d'électricité, on le disait en titre, dans le territoire palestinien, en plus de la privation de carburant, faisant craindre de graves conséquences pour la population civile à Gaza, qui pourrait dans les prochains jours ne plus avoir accès à l'eau potable. À Genève, les précisions de Jérémy Lanche pour Radio France Internationale.
Sans électricité et avec le carburant bloqué, les dernières usines de dessalement d'eau, les centres de santé, les boulangeries de Gaza risquent de fermer, alerte le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. La principale usine de dessalement fournissait de l'eau à 600 000 personnes à Gaza, rappelle Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.
L'électricité n'a été rétablie qu'il y a quelques jours. Jusqu'à maintenant, les gens utilisaient plutôt des générateurs au diesel pour en avoir. L'impact d'un blocus de l'aide alimentaire m'inquiète beaucoup plus, ou si l'eau était coupée. Et de fait, il n'y a plus de nourriture ni d'essence qui rentre à Gaza désormais.
Et en parallèle, Tel Aviv tente à tout prix de convaincre des agences de l'ONU de prendre le relais de l'UNRWA, officiellement banni par Israël. Une tentative vaine, explique Philippe Lazzarini.
D'autres agences peuvent faire rentrer des camions d'aide à Gaza, mais la vraie question, c'est qui va fournir des soins médicaux, de l'éducation. Et si je nous compare, les autres agences de l'ONU ne pèsent pas plus de 5% de notre présence.
Et une présence réduite comme peau de chagrin à cause des lois anti-UNRWA passées au Parlement israélien au début de l'année. Depuis la fin janvier, l'agence ne peut plus compter que sur son personnel palestinien, encore plus soumis aux intimidations et aux menaces de l'armée israélienne, d'après Philippe Lazzarini.
Les négociations sur la poursuite du cessez-le-feu, extrêmement fragile à l'heure actuelle, sont toujours en cours en ce moment même à Doha. Trois actus mondes. En bref, une situation extrêmement inquiétante au nord de l'Angleterre. Une collision entre un pétrolier et un cargo a fait 32 blessés et provoqué des incendies et une fuite de kérosène. Un membre de l'équipage est toujours porté disparu, mais après des recherches intensives, il n'est désormais plus recherché et donc présumé mort en mer du Nord. L'ONG Greenpeace se dit extrêmement préoccupée par les multiples risques toxiques. Le cargo transportait en effet une quantité non déterminée d'alcool et 15 conteneurs de cyanure de sodium, un gaz inflammable et extrêmement toxique s'il était inhalé ou ingéré. Pour l'Organisation maritime internationale, la priorité pour l'heure est de lutter contre l'incendie qui s'est propagé. La rapide descente aux enfers de Tesla, si son grand patron Elon Musk garde le sourire dans le bureau ovale, eh bien l'action du constructeur automobile pionnier des véhicules électriques a plongé, elle, de plus de 15% hier à 241,30 $. Cette chute déjà historique en tant que telle est encore plus impressionnante si on regarde à plus long terme. Depuis décembre, soit depuis l'élection de Donald Trump, Tesla a vu sa capitalisation boursière divisée par deux. C'est plus de 900 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Et aujourd'hui marque le 5e anniversaire de l'épidémie de Covid-19. C'était le 11 mars 2020 que l'Organisation mondiale de la santé déclarait officiellement la crise du coronavirus comme pandémie mondiale. L'OMS estime que près de 15 millions de personnes ont été tuées soit par le Covid, soit par son impact sur les systèmes de santé totalement débordés à travers le monde au cours des deux premières années de l'épidémie. On continue avec l'actualité en Australie à présent et 14 nouvelles personnes ont été inculpées pour des actes antisémites. On écoute le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns.
This is unprecedented in many respects. You're talking about a series of violent attacks in New South Wales designed to sow fear and terror in the community as well as anxiety amongst large sections of the community. To get to the bottom of the conspiracy was an enormous police inquiry and investigation. And rather than me standing here saying there's been a major breakdown, it's the exact opposite. This has been good police work.
Au total, ce sont 29 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la Strike Force Pearl, un groupe de travail créé en décembre dernier pour lutter contre les infractions antisémites en Nouvelle-Galles du Sud. Après le passage du cyclone Alfred, l'heure est à la reconstruction du côté de la Nouvelle-Galles du Sud. Il n'y a plus d'appel à évacuation, le niveau des rivières baisse et les résidents peuvent rentrer chez eux, ont déclaré les autorités. Mais attention, avec prudence.
Returning safely is critical, so you need to be aware that floodwaters, both riverine and flash flooding, can cause risks to your home, travelling to your home, and also once you reach your home. So floodwaters can have contaminants, they can have snakes and vermin that can actually be transported within the rivers, there can be debris, but also electrical hazards. So if your home or premise has been impacted by floodwaters, it's important that you make sure that it is safe.
Voilà, c'était un membre des services d'urgence de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Dans le Queensland, le temps est aussi à la réparation. 75% des foyers ont pu récupérer l'électricité. On rappelle qu'au total, ce sont près de 330 000 foyers qui en étaient privés. Et enfin, on termine ce journal avec une information qui prête à sourire. La nouvelle playlist du roi Charles III, qui, on l'apprend, est fan de Kylie Minogue, notre Australienne, et notamment de sa chanson Locomotion. L'Australienne lui avait fait forte impression en venant chanter en 2012 pour le jubilé de diamant, et le roi, prince à l'époque, ne l'a pas oublié et l'a donc intégré à sa playlist.
Kylie Minogue came to St James's Palace to perform this song in 2012, in advance of the Diamond Jubilee visit to Australia. We had a large reception for Australians in the United Kingdom, and as Kylie is an ambassador for my now King's Trust, she very generously agreed to come and perform. The song is The Locomotion. This is music for dancing. It has that infectious energy which makes it, I find, incredibly hard to sit still.
Voilà le roi Charles III qui manifestement ne peut s'empêcher de danser sur du Kylie Minogue, mais aussi sur du Bob Marley, Beyoncé ou encore Michael Bublé. Allez, on revient avec un point sur la météo du jour. Il fait 34 degrés à Perth, 30 à Adélaïde, 34 à Melbourne, 21 à Hobart, 29 à Canberra, 25 à Sydney, 28 à Brisbane, 32 à Cairns et enfin compter 33 degrés à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.